Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la douleur, car c'est l'un des symptômes les plus handicapants de l'endométriose. Il est important de connaître son fonctionnement, ce qui la déclenche et aussi comment elle se propage dans notre corps. N'étant pas médecin, je vous laisse vous diriger vers un thérapeute de confiance pour qu'il puisse tout vous expliquer en détail. Je vais commencer par une citation pleine d'optimisme de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Pour affronter les événements, je m'inspire souvent de ce que les autres ont réussi à faire. Je ne suis pas Nelson Mandela, mais je prendrai avec plaisir un peu de sa détermination. J'ai essayé de décrire comment les douleurs de l'endométriose se sont immiscées dans nos vies, étape par étape. Ces étapes m'ont été inspirées par des personnes qui me sont proches et par ma propre histoire. La première, je la nommerai l'infiltration. On a mal, pas souvent, pas beaucoup. Et comme depuis des années, on nous dit que c'est dans notre tête ou que ce ne sont que des douleurs de règles, tout nous semble normal, on se fait une raison et on continue d'avancer dans notre petite vie. La deuxième étape, ce sont les tensions. Nos habitudes commencent à changer petit à petit. Nos repères changent sans que l'on s'en aperçoive. C'est la naissance du cercle vicieux. On est de plus en plus fatigué, on a de plus en plus mal et on est de plus en plus tendu. L'un des autres symptômes de la maladie est la fatigue chronique. Mais la fatigue provoquée par la douleur épuise également. Bien sûr, ce mélange fatigue et douleur perturbe totalement notre équilibre, aussi bien psychique que physique. Finalement, tout devient compliqué à faire. Les tâches ménagères du quotidien, le sport que nous avions l'habitude de faire, s'occuper des enfants, même se concentrer devient pénible. La communication avec les personnes autour de nous devient elle aussi difficile. Comment pouvons-nous expliquer à une personne extérieure ce que nous ne comprenons pas nous-mêmes ? On continue malgré tout à serrer les dents et on continue notre vie. Une vie qui devient jour après jour de plus en plus terne. La troisième étape, c'est la croisade. Là, il y a une bifurcation. Il y a des femmes qui vont se faire diagnostiquer rapidement, et il y a celles qui, malgré différentes consultations, ne trouvent pas l'origine de leur douleur. J'aimerais faire une petite parenthèse, car il y a aussi des cas où l'endométriose est visible, par exemple par de petites lésions, et il existe certains médecins qui rejettent l'idée que le problème puisse venir de là et décident de ne pas du tout traiter la maladie. Puisqu'avec celle-ci, on avance dans le brouillard, à partir du moment où il y a des traces et qu'en plus elles sont liées à des douleurs chroniques, il me semble qu'il faut au moins se pencher sur la question. N'hésitez jamais à demander un autre avis. On le sait, une minuscule lésion peut entraîner des douleurs atroces. Atroce. Oui, ce terme fait peur, j'ai eu du mal à l'utiliser, mais je crois qu'il a toute sa place quand on parle de nos douleurs. Pour revenir à la période de la croisade, chacune va faire avec ses propres moyens. C'est un moment particulièrement délicat, où malgré les douleurs persistantes, il faut réussir à trouver de l'énergie pour rechercher des solutions. Et il faut également parvenir à surmonter les échecs. Pour ma part, c'est ici que j'ai eu l'impression que le combat a commencé. Et il n'était pas contre ma maladie, mais contre un système qui m'empêchait de me soigner correctement. Mais notre vie ne se résume pas à nos douleurs. Il y a le quotidien, le travail, le ou la compagne, les amis, la famille, les problèmes courants, les enfants, l'argent. Tout cela va nous ralentir dans nos soins. Donc parfois, il faut un déclic ou du temps avant que la quête de solutions ne soit à nouveau à l'ordre du jour. Chacune va trouver des solutions qui lui sont personnelles, soit en se documentant le plus possible pour mieux comprendre la situation, ce qui a été mon cas, ou en affrontant les problèmes les uns après les autres. Et il y a aussi la possibilité de continuer à mettre tout ça de côté. Bref, à chacune sa stratégie. Aujourd'hui, ce qui me tracasse, c'est que souffrir de maladies chroniques peut nous isoler, et avec la crise sanitaire, rien ne s'est arrangé. Si vous souffrez, n'hésitez pas à prendre les outils qui sont à votre portée, et n'oubliez pas de communiquer. Que ce soit avec vos proches ou des personnes plus extérieures, peu importe. Mais ne restez pas seul avec vos douleurs. Bien sûr, il faut trouver un traitement pour la douleur, mais vous devez aussi prendre soin de votre santé mentale. Par exemple, vous pouvez vous tourner vers un psychologue ou un psychiatre. Dans les centres médico-psychologiques, dits CMP, ils proposent des consultations où vous n'avez pas de frais avancés. Au sein des hôpitaux aussi, des consultations peuvent être proposées et être prises parfois en charge par la sécurité sociale. Bien sûr, via ce podcast, vous pouvez vous exprimer et partager vos ressentis. Vous pouvez utiliser l'adresse mail suivante. nosdouleurs@outlook.com. Nos douleurs s'écrit NOSDOULEURS. Pour essayer d'organiser les choses, je vais parler d'un problème à la fois. Donc si vous avez l'impression qu'un sujet n'est pas abordé en profondeur, il y a de fortes chances que j'y revienne plus tard. Parfois, ce peut être difficile de le reconnaître, mais la douleur peut être utile. Elle nous informe qu'il y a ou qu'il y a eu un problème. Et la difficulté avec l'endométriose, c'est qu'on se retrouve à cheval sur ces deux causes. Il peut exister plusieurs origines aux douleurs, et pour trouver les traitements adaptés, nous devons comprendre d'où elles proviennent. Une douleur devient chronique quand elle dure depuis plus de 3 mois, que les lésions persistent ou non, ou que les symptômes initiaux se soient étendus aux autres organes. La douleur est présente depuis suffisamment longtemps pour modifier la façon dont le cerveau perçoit les choses. Certaines douleurs peuvent être associées à des douleurs fantômes car l'inflammation n'existe plus mais la douleur est bien présente. Ce terme peut aussi être entendu lorsqu'il y a l'amputation d'un membre. Le membre n'existe plus mais la douleur existe bel et bien. Donc c'est au niveau du cerveau que le tour de passe-passe se fait. Dans de tels cas, il faut trouver des solutions pour indiquer au cerveau que les choses vont mieux. Pour nous aider, un thérapeute du type algologue ou médecin de centre antidouleur sont les bienvenus. Les rendez-vous ont parfois beaucoup d'attentes. Mais prenez-le quand même, vous pourriez être agréablement surprise. En plus, il s'agit de médecins qui sont spécialisés dans la douleur, donc ils seront tout à fait à même de comprendre ce que vous pouvez ressentir. Et en attendant ce rendez-vous, il vous reste encore plein de pistes à étudier. L'idéal est d'essayer différentes techniques pour soulager la douleur et d'observer ce qui fonctionne ou pas. Il faut garder à l'esprit que ce qui ne marche pas pour l'une pourra probablement marcher pour une autre personne. Je vais vous présenter quelques pratiques qui sont répandues dans le traitement de l'endométriose. Il existe l'acupuncture. Elle peut avoir des effets divers, tels que le soulagement de contractures ou de douleurs. Ce n'est pas une technique toujours bien connue, mais elle a fait ses preuves. Certains centres antidouleurs peuvent proposer des séances, et il en existe aussi en libéral. Il existe également la mésothérapie, qui consiste en de petites injections en surface. Cette technique est tout à fait recommandée dans le traitement des douleurs pelviennes. Je vous recommande vivement ces deux techniques, elles valent vraiment la peine d'être essayées. En ce qui concerne les soins les plus connus, il y a l'ostéopathie et la kinésithérapie. Il existe d'autres solutions qui peuvent aussi nous aider à nous approprier notre nouvelle vie et à gérer les douleurs. Par exemple, la sophrologie, la méditation, ou encore parler à un professionnel. Comme je vous le disais tout à l'heure, consulter un psychiatre ou un psychologue ne signifie pas que nous avons un problème psychique, mais que nous voulons prendre les choses en main. N'hésitez pas à mener l'enquête s'il en existe près de chez vous et à vous renseigner sur la pratique de chacun. Tournez-vous vers un thérapeute avec qui vous vous sentez à l'aise. C'est une partie difficile à aborder, car c'est une partie qui est souvent difficile à accepter. Quand on a aussi mal, tout ce que l'on souhaite, c'est qu'on nous donne un comprimé et que, comme par magie, la douleur disparaisse. Dans le cas de l'endométriose, il n'y aura hélas rien de magique. Jour après jour, nous pouvons mettre en place de petites améliorations. Par exemple, sur l'alimentation. Elle joue un rôle important dans la douleur. Certains aliments favorisent l'inflammation, tels que le sucre et l'alcool. Mais pas de panique, il n'est pas utile de se radicaliser. Juste de diminuer un peu les quantités et d'observer ce qu'il se passe. Par exemple, si vous buviez un verre d'alcool dès que vous sortiez, essayez un verre de jus d'orange une sortie sur deux. Bien sûr, il est hors de question d'arrêter les sorties pour autant. Pour vous donner une idée, je suis quelqu'un qui adore manger. J'adore cuisiner à l'oignon, le fromage, le pain, les gâteaux, le chocolat, et je trouvais que souvent un petit verre de vin pour arroser le tout était parfait. Mais comme mes douleurs ne passaient pas, je me suis résignée à changer de mode d'alimentation. Au début, ça n'a pas forcément été simple, ni très agréable. Mais quand je me suis rendu compte des bienfaits de ces changements, j'ai vraiment continué avec plaisir. Aujourd'hui, je continue à m'octroyer des petits plaisirs, mais moins souvent, et j'en profite pour qu'ils soient plus qualitatifs. Pensez également à faire des choses simples qui vous font plaisir. Par exemple, j'adore lire des comics ou des mangas, donc de temps en temps, je prends le temps d'en acheter et de les lire. Il s'agit de trouver quelque chose qu'on puisse faire régulièrement, même en ayant mal. Et toutes les choses un peu trop exotiques pour notre santé actuelle, notez-les quelque part, car je suis persuadée qu'avec de la détermination, rien ne peut nous empêcher de réaliser nos rêves. Et si je vous parlais de sport, vous allez me rire au nez. Bien sûr, comment faire du sport quand on n'arrive même pas à se tenir debout? Dans ce cas, fermez les yeux et réfléchissez à une position qui ne vous fait pas mal. Si par exemple être assise est une position qui vous convient, avec l'aide d'un kinésithérapeute, trouvez des étirements que vous pourrez faire dans cette position, et ainsi de suite. Le but est de mobiliser notre corps autrement qu'en passant aspirateur ou en nettoyant les baignoires. Vous verrez, il n'y a pas besoin de se contorsionner dans tous les sens ou d'y passer des heures pour avoir des bénéfices. Aujourd'hui, ces changements doivent vous sembler contraignants. Quand vous vous rendrez compte que toutes ces petites choses vous font énormément de bien, vous les appliquerez facilement et avec plaisir. Ne faites pas un focus sur ce qui ne va pas dans votre vie, mais regardez surtout vos atouts. Je vous conseille de vous libérer du temps pour mettre votre nouvelle stratégie de vie en place. Prenez le temps là où il se trouve. Les 5 minutes passées aux toilettes, le trajet de bus, la marche pour rentrer à la maison, etc. Vous devez également penser à rester connecté à votre corps. C'est votre meilleur allié. Parfois, j'utilise la dissociation du corps et de l'esprit. Je me dis que mon corps n'a pas demandé à être malade. Il est comme mon esprit, il subit la situation. Donc j'ai décidé de faire équipe avec lui pour affronter toutes les situations compliquées. Donc quand vous faites du bien à votre corps, vous faites aussi du bien. J'ai une petite devinette qui me porte depuis 2 ans et demi et qui m'incite à ne jamais baisser les bras. Si je vous demande, comment mange-t-on un éléphant? Eh bien, la réponse est simple, c'est petit à petit. Ce qui signifie que pour manger quelque chose d'aussi gros qu'un éléphant, il faut le faire bouchée par bouchée. Et je vois la vie comme ça. Régulièrement, je fais des petites choses pour mon bien-être. Bien sûr, pas tous les jours car la douleur m'en empêche, mais je sais qu'au final, l'éléphant, je vais le manger. Cette phrase ressemble beaucoup au dicton « Rome ne s'est pas faite en un jour ». Mais comme l'idée est de se réinventer, c'est aussi le moment de créer un nouvel environnement. Pour résumer cet épisode, si un jour on vous dit que comme vous avez de l'endométriose, vous devez apprendre à vivre avec la douleur, dites non. Dites que vous avez une longue vie devant vous et que vous comptez bien en profiter. Dans le prochain épisode, nous aborderons plus en détail les douleurs liées à l'endométriose. Merci pour votre écoute, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée.